l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à foi 100.2.
Soyez les bienvenus, il est 12h sur Radio Présence, Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Dans cette émission, on va parler des Restos du Cœur. Ce sont 110 associations départementales qui existent en France. Coup de projecteur aujourd'hui sur le département des Hautes-Pyrénées avec Alain Leroyer, le président de l'antenne des Restos du Cœur des Hautes-Pyrénées. Dans ce département, ce sont pas mal ou moins de 300 bénévoles qui œuvrent. Alain Leroyer sera au micro dans un instant, l'endroit de Jankovic. Et puis nous allons prendre un peu d'altitude dans cette émission de direction Barège, qui se trouve dans les Hautes-Pyrénées grâce à la plume d'Arnaud Abadi, qui est né à Tarbes en 1797. Il a été avocat, puis conseiller à la cour de Pau, et puis il a surtout écrit Itinéraire topographique des Hautes-Pyrénées, publié en 1819. C'est cette semaine l'auteur qu'a sélectionné Anne Lasserre dans Le Regard des écrivains sur les Pyrénées. Au cœur de ce magazine, à 12h30, le journal régional avec Éric Leclerc. Éric, on le retrouve maintenant pour le titre à la une de l'actualité régionale.
Journée d'action ce jeudi dans les hôpitaux de Tarbes, Lourdes, Vic et Bagnères-de-Bigorre. Des appels à la grève ont été lancés pour dénoncer la dégradation continue des conditions de travail et exiger des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins des usagers. Des débriefs et rassemblements auront également lieu dans plusieurs établissements du secteur social et médico-social des Hautes-Pyrénées. Mesures de restriction sur les prélèvements d'eau et usages à partir du milieu naturel en Aveyron. En ce début d'automne, la situation des milieux aquatiques demeure fragile. Malgré des épisodes pluvieux significatifs en septembre, le retour intense sec se traduit déjà par une baisse des débits dans les cours d'eau. Compte tenu de cette situation, des évolutions des mesures de restriction des prélèvements et usages d'eau à partir du milieu naturel ont été arrêtées. Ces mesures entreront en vigueur le samedi 11 octobre à 8h. Pour consulter cet arrêté, vous allez sur aveyron.gouv.fr. La Marine nationale s'installe à Toulouse les 10 et 11 octobre au port Viguerie pour aller à la rencontre des jeunes de la région dans le cadre d'un événement de recrutement inédit à Toulouse. L'objectif est de permettre à un public éloigné géographiquement des côtes maritimes et aux jeunes futurs candidats entre 16 et 30 ans de découvrir les différents parcours proposés par la Marine nationale. Au programme de ces deux journées, job dating, rencontres avec des marins, conférences, démonstrations dynamiques.
Merci Eric Leclerc, à tout à l'heure à 12h30, on vous retrouvera pour développer ces titres dans le journal. Pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité, le président de l'antenne des Restos du Cœur des Hautes-Pyrénées.
Présence à Montauban, 93.3.
Bonjour Alain Leroyer.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'antenne des Restaurants du Cœur dans les Hautes-Pyrénées et nous allons aujourd'hui avec vous parler de cette association, l'association qui fête ses 40 ans cette année. On pourrait presque dire un triste anniversaire parce que si les Restos du Cœur sont toujours là, c'est que malheureusement il y a toujours des personnes qui sont dans le besoin, peut-être de plus en plus. En tous les cas, vous allez nous dire tout ça. On va essayer de décrypter un petit peu ce qui se passe ici, en tous les cas, dans les Hautes-Pyrénées. De quoi vous êtes témoin en tant que président de l'antenne des Restos du Cœur dans les Hautes-Pyrénées. D'abord, on va refaire peut-être une présentation un petit peu large de cette association née il y a 40 ans sur un cri de colère, on peut dire ça comme ça. Un ras-le-bol face à la détresse, en tous les cas.
Oui, bon, tout le monde le sait, hein, parce que je pense que, effectivement, c'est de notoriété publique que cette association, donc, elle est née avec Coluche, hein, qui, effectivement, donc, a constaté que il y avait beaucoup de misère, des gens qui ne mangeaient pas à leur faim, et qu'à côté de ça, il y avait donc des surplus alimentaires, donc des denrées qui se perdaient. Donc il s'est dit pourquoi effectivement donc ne pas réutiliser ces denrées qui se perdent pour les mettre donc au profit de gens qui en ont besoin. Voilà. C'est comme ça qu'a été créée donc cette association. Malheureusement donc lui il est décédé peu de temps après puisque l'association a démarré en 85 et lui donc il est mort brutalement en 86. Mais donc cette association a été reprise par sa femme Simone qui effectivement a continué donc la mission que Coluche donc s'était engagé donc à faire donc avec cette association.
C'est une œuvre de solidarité, c'est aussi une œuvre d'économie, j'allais dire, puisque en fait on fait aussi la chasse au gaspille pour pouvoir faire bénéficier à des personnes dans le besoin de la nourriture au lieu de la gaspiller, au lieu de la jeter. Donc c'est à la fois un modèle économique en tous les cas.
Oui, en fait, bon, ce n'est pas effectivement le but premier donc de chasser les gaspillages alimentaires, hein. Mais effectivement, indirectement, ça y contribue, voilà. Mais donc,
en tous les cas, il y a une sensibilisation sur ce thème, sur ce sujet-là, qui a quand même grandi depuis 40 ans.
Oui, notamment auprès de la grande distribution, parce
bien
que
sûr.
La grande distribution, donc, à l'époque, donc, jetait les aliments. Donc, certains même, donc, mettaient de l'eau de javel, donc, pour que ces aliments ne soient pas récupérés. Donc, effectivement, Coluche a fait, effectivement, donc, a permis de prendre conscience, de faire prendre conscience, donc, à la grande distribution et à travers ça donc au grand public de l'intérêt effectivement de ne pas jeter et de mieux consommer donc
Et ça c'est un fonctionnement qui est rodé, qui fonctionne bien dans la grande distribution, tout le monde joue le jeu. Enfin vous avez de vrais partenaires 40 ans après la création des restaurants du cœur, on peut dire que c'est une affaire qui roule.
Oui, parce qu'en fait la grande distribution y trouve son compte parce que effectivement tous les produits qu'elle a en surplus, qui sont donnés donc aux associations d'aide alimentaire, pas qu'au Resto du Cœur, parce que donc il y a la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge,
Secours
Populaire, mais donc ces entreprises de la grande distribution défiscalisent aussi hein, les dons qu'elles font, donc elles y trouvent quand même un intérêt financier plutôt que de jeter et que ça rapporte rien, effectivement le donner aux associations ça leur permet de récupérer donc un bonus fiscal, voilà.
Alors concrètement comment ça marche? Dans chaque département il y a une antenne des Restaurants du Cœur et des bénévoles et des salariés font tourner la boutique en faisant précisément la tournée de la grande distribution pour ramasser les denrées et ensuite les mettre à disposition de manière organisée. Vous pouvez nous donner un peu les coulisses, comment ça se passe?
En fait, une association départementale comme celle des Hautes-Pyrénées, il faut savoir qu'en France, il y a 110 associations départementales comme la nôtre. Plus ou moins importantes, nous on est un petit département, donc on est une petite association
départementale. Avec 300 bénévoles, mais on va en reparler tout à l'heure.
Voilà. Mais donc, chacune de ces associations départementales est agréée par donc l'association nationale, voilà, qui effectivement délivre un agrément. Donc l'image des restaurants du cœur de Coluche, donc on ne peut l'utiliser que effectivement si on est agréé par l'association nationale. Et cette association nationale nous aide effectivement techniquement, logistiquement. Et sans cette association nationale, on ne pourrait pas exister. Parce que nous, au niveau donc d'associations départementales, on n'aurait pas les moyens donc de faire fonctionner notre association. Donc, on bénéficie donc de subventions, de dons, mais effectivement, le gros des financements, ça provient donc de l'association nationale. Voilà. Donc, toutes les associations départementales fonctionnent sur le même principe. Voilà. Et on peut donc à peu près examiner comment donc, sont alimentés donc, les restaurants du cœur. En fait, des fonds qui viennent de l'Europe, donc, justement grâce à Coluche, parce qu'effectivement, donc, a permis aussi donc, de sensibiliser l'Europe à financer donc, les associations d'aide alimentaire. Donc il y a une partie donc, des produits qui sont donnés par l'Europe, c'est à peu près un cinquième donc, des produits consommés. Il y a des produits qui sont achetés par les restaurants du cœur, ça c'est ce qu'on appelle le négoce. Donc là, ça représente presque 50% donc des produits qui sont délivrés aux personnes. Et puis il y a donc les dons. Alors les dons proviennent donc soit de la grande distribution, soit des producteurs, donc des gros producteurs agricoles qui ont des surplus, soit également des ramasses que l'on fait donc ici localement dans les magasins. Mais ça, ça a malheureusement tendance à diminuer. Et puis également, ça provient aussi des collectes.
Pourquoi ça diminue, pardon, des magasins
Parce que les magasins donc, ont mis en place des systèmes qui leur permettent... parce qu'effectivement, ils sont soumis aussi à une loi anti-gaspille. Hein. Donc, ils n'ont pas intérêt donc, à délivrer des surplus. Donc de façon importante, voilà.
Ah oui, comme eux, ils font plus attention voilà. Aux produits qu'ils ont en stock, et eh bien forcément, voilà. Pour vous, c'est un manque à gagner.
Quand les produits arrivent donc en fin de vie, donc ils font des promotions.
Voilà.
Et donc effectivement, ça veut dire qu'effectivement, donc les restaurants du cœur, comme les autres associations d'aide alimentaire, bénéficient moins de ces ramasses, voilà. Et puis donc je disais que le quatrième possibilité de don, ce sont les collectes. Donc là, nous venons de faire une collecte donc au niveau du département, enfin, une petite collecte, parce que la grande collecte donc nationale, elle a lieu au mois de mars. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est quand même relativement important. Voilà. Donc ça, c'est aussi très, très important de faire comme ça, parce que moins les restaurants du cœur achètent, donc mieux, effectivement, l'association se porte. Voilà.
Est-ce qu'on a une idée de la quantité de produits? Alors, on pense qu'il n'y a que l'alimentaire, mais il y a aussi des produits d'hygiène. Hein,
Oui, effectivement, maintenant, on distribue beaucoup de produits d'hygiène. Enfin, oui, notamment donc, pour la précarité mensuelle donc, oui. des femmes, mais aussi donc, des produits alimentaires de base. Voilà. Ça, effectivement, c'est important.
Et on a une idée des quantités. Enfin, là, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, vous récoltez quelle quantité? Et est-ce que la quantité que vous récoltez, elle correspond à la demande, aux besoins? Est-ce que vous êtes en manque? Est-ce que vous êtes obligé de refuser des personnes, disant, non, on n'a pas de quoi
non,
vous aider?
On ne refuse jamais, mais parce qu'effectivement, c'est l'association nationale qui effectivement
compense.
Permet donc,
ouais.
hein, donc, qu'on ne soit pas en déficit par rapport donc, aux produits qui sont à distribuer. Voilà. Par contre, là, pour l'année prochaine, donc, on démarre la 41e campagne, hein, puisque effectivement, l'anniversaire, c'était la semaine dernière. Donc, on démarre la 41e campagne, et là, probablement que effectivement, les dotations vont être moins importantes parce que, effectivement, comme on a de plus en plus de demandes,
bien sûr.
Comme ça coûte de plus en plus cher, effectivement, ben, on est les restaurants du cœur, donc sont obligés de diminuer donc un peu donc ce qui va être distribué aux personnes.
On marque une pause, Alain Royer, et on vous retrouve dans un instant. Nous parlerons notamment des bénéficiaires de cet acte de solidarité porté par les restaurants du cœur. À tout de suite.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Auch. 89.6.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en plein cœur de Présence Midi à 12h30, le journal régional avec Eric Leclerc. Mais la suite de Présence Midi, c'est toujours avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Nous sommes toujours en compagnie de Alain Leroyer, président de l'antenne des Restaurants du Cœur dans les Hautes-Pyrénées. Alain Leroyer, vous nous avez expliqué en première partie le fonctionnement. J'aimerais qu'on se penche vraiment sur les bénéficiaires. Juste avant la pause, vous disiez que, eh bien, enfin, vous laissiez entendre dans tous les cas que les demandes augmentaient. Comment vous avez vu au cours des dernières années, ça fait 5 ans que vous êtes investi dans les restaurants du cœur. Qu'est-ce que vous avez observé de l'évolution des besoins?
Concrètement, malheureusement, on augmente à peu près de 10% par an. Donc le nombre de personnes accueillies. Donc on n'utilise pas ce mot bénéficiaire, on appelle ça, on les nomme les personnes qui s'adressent à nous, des personnes accueillies. Donc 10% à peu près d'augmentation tous les ans.
Mais dans les Hautes-Pyrénées ou national ?
Au niveau national, au niveau dans les Hautes-Pyrénées, oui. Actuellement, on a donc sur les départements 3500 personnes accueillies. Donc, qui effectivement donc, se sont adressés à nous. Alors, il faut savoir que toutes les personnes qui s'adressent à nous ne bénéficient pas de l'aide alimentaire, hein, parce qu'effectivement, nous avons des barèmes. Donc, quand une personne s'adresse à nous, elle doit justifier donc, ses ressources et ses dépenses. Et donc, en fonction du reste à vivre, et en fonction, bien sûr, du nombre de personnes qui sont dans la famille, on va ou pas, donc... lui donner donc de l'aide alimentaire.
C'est-à-dire qu'on ne se présente pas comme ça au Resto du Cœur en disant j'ai besoin de nourriture, donnez-moi ce qu'il faut, ça ne marche pas comme ça.
Voilà, il faut justifier quand même, parce qu'effectivement on ne peut pas servir tout le monde. Hein. Il faut justifier effectivement, donc on a des barèmes en fonction du nombre de personnes, et donc pour que l'aide alimentaire soit distribuée à cette famille-là, il faut effectivement qu'elle respecte donc le barème. Par contre, donc toutes les personnes qui s'adressent à nous, même si elles ne peuvent pas bénéficier de l'aide alimentaire, elles pourront être quand même accompagnées, conseillées et bénéficier d'autres systèmes, d'autres propositions que l'on fait. Par exemple, donc on fait de l'aide aux devoirs, on donne des cours de français, on organise des séjours vacances, des conseils aussi aux personnes.
Parce qu'effectivement, il y a un accompagnement humain, quoi. C'est pas juste du matériel.
Accompagnement humain. Soit effectivement on peut y répondre directement, soit on va donc orienter la personne vers donc un organisme qui va pouvoir répondre à des besoins. Donc quelle que soit effectivement la demande, quel que soit donc le niveau de ressources de la personne, donc on va donc essayer de répondre donc à ses besoins. Parce qu'effectivement, une écoute bienveillante, ça c'est la première donc qualité des bénévoles au Restaurant du Cœur.
Eh oui, on va reparler des bénévoles dans un instant. Je reste sur les personnes accueillies. Ce sont plutôt des hommes, des femmes, des familles, des gens qui ont un travail mais ça ne suffit pas, ou des gens qui ont perdu leur travail. Est-ce qu'il y a des profils types, ou bien ça peut être la vie, les circonstances qui font que tout d'un coup, tout dégringole un peu en chaîne?
Non, il n'y a pas de famille type, effectivement. Donc il y a des familles... isolés, des familles nombreuses, voilà. Par contre, donc, depuis 2 ans, on a un barème spécifique pour les familles monoparentales. Effectivement, parce que ça nous a paru, effectivement, ça a paru au niveau national important, donc, de privilégier les familles monoparentales qui sont effectivement souvent le plus en difficulté. Également, on a fait un effort, donc, plus important au niveau de la petite enfance. Donc, pour les bébés donc de 0 à 36 mois, donc on a des dotations particulières, spécifiques en fonction de l'âge, bien sûr. Donc ça, effectivement, c'est une nouveauté.
Parce que vous voyez arriver des jeunes mamans qui n'ont pas de quoi habiller, vêtir, nettoyer ou nourrir leur enfant, leur bébé.
Effectivement, les coûts, ça coûte très cher,
bien sûr.
Le lait maternisé, ça coûte très cher. Voilà, donc les produits d'hygiène aussi, ça coûte très cher. Donc on a effectivement, on fait un effort particulier pour ces familles qui ont des enfants de 0 à 36 ans, et puis comme je disais, pour les familles monoparentales.
Vous disiez tout à l'heure 10% d'augmentation de fréquentation, enfin de personnes qui viennent frapper à la porte des Restos du Cœur parce qu'elles sont dans le besoin. Là, alors qu'on est au seuil de la période d'hiver, quelles perspectives vous avez? Comment vous envisagez la période hivernale qui démarre là?
Donc là, on va démarrer les inscriptions, puisque, comme je dis, on va démarrer la 41e campagne,
oui.
Donc le 17 novembre. Donc là, on va démarrer la période d'inscription. Donc on va voir effectivement combien de bénéficiaires, enfin combien de personnes accueillies on va recevoir, mais probablement qu'on va augmenter. Mais comme je dis tout à l'heure, compte tenu des circonstances, effectivement, on va certainement devoir diminuer donc la dotation par personne. Actuellement, donc on donne 7 repas pour la semaine à un membre de la famille. Donc probablement qu'on va effectivement peut-être diminuer. Donc
l'idée, c'est de ne jamais refuser personne. quitte à donner un peu moins à chacun pour, voilà, pour accueillir plus. Voilà. C'est voilà, ça le...
Pour répondre à la demande et puis effectivement la faire coïncider avec nos moyens. Parce qu'encore une fois, nos moyens, malheureusement, ils sont limités.
Ça veut dire que malheureusement, vous allez être obligé de demander aux personnes qui font déjà l'effort d'admettre leur pauvreté, de venir, de faire cette démarche de frapper à la porte des restaurants du cœur. Eh bien, il faut en plus leur demander malheureusement un effort parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde.
Voilà, exactement. Voilà. Alors, je précise aussi que bon, pour ce qu'on n'a pas dit, donc pour le département, nous avons 10 centres d'activité qui sont disséminés sur le département. Donc le plus important, bien sûr, c'est celui de Tarbes. On a un CEMEAC et puis à Lourdes. Donc ça, ce sont les plus importants. On a également, donc depuis 3 ans, donc un centre itinérant. C'est-à-dire que...
Vous faites des maraudes, c'est ça?
Ça, c'est encore différent. On a un centre itinérant, donc un véhicule qui se déplace dans certaines zones où il n'y a pas de centre fixe. Hein. Donc, par exemple, donc dans les vallées des Gaves, dans le nord du département, donc une fois tous les 15 jours, donc on va dans des lieux définis, donc avec, en collaboration avec les mairies.
Ce sont les mairies qui vous font appel ou ça passe par les CCAS, peut-être?
Oui, ça peut passer par le CCAS ou directement, donc depuis la mairie, voilà.
Donc, ils sont un peu lanceurs d'alerte. Ils vous disent, attention, là, nous, on sent qu'il y a un besoin dans la population.
Donc, nous, on voit si, effectivement, on peut répondre. Donc,
d'accord.
Nos moyens logistiques, etc.
Donc, les élus locaux sont vos partenaires, en fait, dans cette lutte contre la pauvreté.
Alors, je disais, donc, 10 centres d'activité fixes, un centre itinérant. On a également, donc, une distribution de repas chauds à Lourdes. Donc, toutes les personnes qui se présentent, donc, on prend juste leur prénom, donc, on leur distribue, donc, deux fois par semaine à Lourdes. Donc, ça représente à peu près 50-60 repas, deux fois par semaine à Lourdes, voilà.
Et ça, c'est toute l'année?
C'est toute l'année, voilà. Tous nos centres fonctionnent toute l'année, voilà. Et puis, un dernier dispositif qu'on a mis en place, il y a très peu de temps, donc depuis juillet, donc c'est une maraude, voilà, une maraude qu'on fait sur...
Et ça, c'est nécessaire l'été comme l'hiver. Hein.
Sur Tarbes, ouais. Donc une fois par semaine, donc on espère pouvoir donc monter à deux, à vous, si effectivement, à condition de trouver les bénévoles qui sont effectivement en capacité de faire cette activité, parce que c'est une activité qui est pas évidente, hein, d'aller au-devant des personnes qui sont désocialisées pour la plupart, voilà. Mais effectivement, ça, on le fait en partenariat aussi avec le SIAO, donc le service de l'État, effectivement, en faveur des personnes donc précaires.
Vous travaillez en réseau avec les autres lieux de solidarité, je pense au Secours catholique, aux équipes Saint-Vincent, le Secours populaire. Vous êtes en réseau les uns avec les autres?
Assez peu, en fait. Ouais, assez peu. Bon, on se connaît, mais effectivement, on a chacun nos façons de fonctionner qui sont différentes. Nos circuits d'approvisionnement peuvent servir les mêmes personnes, faut pas se leurrer, parce qu'effectivement, les gens qui se présentent chez nous vont effectivement avoir des compléments dans d'autres associations. Ouais. On le sait, c'est normal. Hein, donc, voilà.
En tous les cas, vous avez un point commun avec toutes les autres œuvres de solidarité, c'est le besoin de bénévoles. Ouais. Et on va parler de ça pour terminer cette émission. Vous me le disiez en préparant cet entretien, mais on l'entend souvent, il y a vraiment un besoin de bénévoles. Vous avez dans l'antenne des Restos du Cœur des Hautes-Pyrénées 300 bénévoles, ça paraît beaucoup. Mais c'est quand même juste pour pouvoir porter tout le service que vous nous avez expliqué là.
Oui, 300 bénévoles répartis donc dans les 10 centres fixes, le centre itinérant, la maraude et les repas chauds. Donc,
oui. Voilà.
Mais
parce que les bénévoles, vous en avez besoin pourquoi? Pour aller chercher la nourriture, la ranger, la trier?
Ben, on a un entrepôt, donc je ne l'ai pas dit, mais effectivement, tous les produits qui arrivent, donc. Par divers canaux, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, arrive donc dans notre entrepôt de CEMEAC, où il est stocké, rangé, classé, etc. Et ensuite, ça part, donc avec des véhicules donc, qui nous appartiennent, ça part donc dans les différents centres d'activité. Mmh. Donc là aussi, on a besoin de bénévoles, effectivement, pour cet entrepôt. Voilà. Donc, On a un roulement de bénévoles, donc à peu près vers 300. Donc effectivement, ben, constamment, on recrute des bénévoles, il y en a qui partent, etc.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour être bénévole au Resto du Cœur ?
Il faut donc...
À part du temps ?
Accepter, donc on a une charte hein, donc des bénévoles. Oui. Mais donc la principale qualité donc, d'un bénévole, c'est d'être engagé et avoir une écoute bienveillante. Voilà. Puisqu'effectivement, l'un des points forts des Restos du Cœur, c'est que c'est la non-discrimination. Mmh. Donc, on accueille tout le monde.
Tout le monde.
Donc, on ne fait pas attention au statut de la personne, à sa religion, etc. C'est vraiment la non-discrimination.
Donc, il faut que les bénévoles acceptent ça et jouent ce jeu-là,
voilà,
quand même.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est le point de départ, quoi. Voilà. Alors, au niveau des bénévoles, donc, ce qui, effectivement, nous fait défaut, ce sont les bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités. Donc, par exemple, donc, moi, j'étais trésorier avant d'être président de l'association, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé de trésorier, donc je cumule les deux fonctions, donc, ce qui n'est quand même pas...
C'est pas l'idéal.
C'est pas l'idéal, ni éthiquement, ni pour mon temps personnel. Également, on a besoin d'une secrétaire départementale. On a besoin aussi d'une personne... qu'on appelle donc aide à la personne, effectivement, qui effectivement est en lien avec les administrations.
Ça, ce sont des postes bénévoles, ce ne sont pas des postes salariés.
Voilà. Actuellement, donc, on a un seul poste de salarié, secrétaire comptable, donc, qui est au siège social, mais tous les postes donc, sont bénévoles. Oui.
J'ai une dernière question pour vous, Alain Leroyer. Pourquoi vous avez fait ce choix de vous engager au Resto du Cœur. Pourquoi vous avez eu ce désir ? Pourquoi aujourd'hui vous êtes président de cette association ?
En fait, moi, j'ai un parcours professionnel dans le social, puisque bon, j'étais directeur de clinique chirurgicale. Après, j'étais 28 ans directeur d'un établissement médico-social. Et donc, à la retraite, ben, j'avais envie, effectivement, ben, de donner mon temps tout en poursuivant, donc faisant partager donc mes compétences donc, et mon engagement dans ce secteur-là. Donc, voilà. Et voilà, je m'y sens bien. Donc, c'est une association donc, que je respecte, qui me respecte, effectivement, dans laquelle... Donc, je me sens utile dans cette association.
Comment on fait si, en vous écoutant, eh bien, on a envie de rejoindre votre équipe, de travailler à vos côtés, Alain Leroyer, dans cette antenne des Restos du Cœur ?
Alors, on peut faire un message, donc une adresse mail donc, que je vais vous donner. Donc, AD, comme association départementale, ad65.bénévolat@restoducœur.org. Donc, Resto du Cœur, R-O-S-T-O-S, du cœur.org. Voilà. Donc, il y a une personne donc, qu'on appelle personne ressource bénévole, qui accueille les bénévoles, qui discute avec eux, effectivement, qui va donc leur proposer une mission en fonction de leur lieu de résidence et en fonction, effectivement, de leurs souhaits.
Voilà, je rappelle l'adresse mail ad65.bénévolat@restoducœur.org, ad65.bénévolat@restoducœur.org, resto au pluriel. Merci beaucoup, Alain Leroyer, d'être venu donc nous présenter cette antenne des Restaurants du Cœur dans les Hautes-Pyrénées. Je rappelle, les Restos du Cœur dans les Hautes-Pyrénées, ce sont 10 centres d'activité, 300 bénévoles, un centre itinérant et des 3 lieux de distribution de repas chauds.
Un lieu
à Lourdes
et
une maraude. Merci beaucoup, Alain Leroyer, et puis bravo pour cette mission au service des plus pauvres. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Voilà, et Alain Leroyer était interrogé à l'instant par Anne-Rose Jankovic.
Présence.
Reste avec nous dans les prochaines minutes. On va prendre un peu d'altitude. Nous partirons à Barège, dans le département des Hautes-Pyrénées, grâce à la plume d'Arnaud Abadi, qui est né à Tarbes. C'était en 1797. Il a été avocat, puis conseiller à la cour de Pau. Il a surtout écrit Itinéraire topographique des Hautes-Pyrénées. C'est cet ouvrage qu'a sélectionné Anne Lasserre, cet ouvrage qui a été publié en 1819. C'est le regard des écrivains sur les Pyrénées. Écoutez dans un instant, juste après le journal régional à la mi-journée, avec Éric Leclerc à midi.
Bonjour, journée d'action ce jeudi dans les hôpitaux de Tarbes, Lourdes, Vic et Bagnères-de-Bigorre. Des appels à la grève ont été lancés pour dénoncer la dégradation continue des conditions de travail et exiger des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins des usagers. Ils auront également lieu dans plusieurs établissements du secteur social et médico-social des Hautes-Pyrénées. Mesures de restriction sur les prélèvements d'eau et usage à partir du milieu naturel en Aveyron. En ce début d'automne, la situation des milieux aquatiques demeure fragile. Malgré des épisodes pluvieux significatifs en septembre, le retour à un temps sec se traduit déjà par une baisse des débits dans les cours d'eau. Si la majorité des mesures en vigueur restent stables, des ajustements, des limitations d'usage sont nécessaires. Compte tenu de cette situation, des évolutions des mesures de restriction des prélèvements et usage de l'eau à partir du milieu naturel ont été arrêtées. Ces mesures entreront en vigueur le samedi 11 octobre à 8h. Pour consulter cet arrêté, allez sur aveyron.gouv.fr. La Marine nationale s'installe à Toulouse les 10 et 11 octobre au port Viguerie pour aller à la rencontre des jeunes de la région dans le cadre d'un événement de recrutement inédit à Toulouse. L'objectif est de permettre à un public éloigné géographiquement des côtes maritimes et aux jeunes futurs candidats entre 16 et 30 ans de découvrir les différents parcours proposés par la Marine nationale. Au programme de ces deux journées, job dating, rencontres avec des marins, conférences, démonstrations dynamiques. En 2024, 231 marins d'Occitanie ont été admis sur 3047 au plan national. Un après-midi pour découvrir la maternité de l'hôpital Ducueil à Toulouse. Cette maternité invite les futurs parents à venir découvrir son service et échanger avec les professionnels qui l'animent. Le samedi 11 octobre, de 13h30 à 17h, les équipes accueilleront les visiteurs pour un après-midi de rencontres, de visites et d'ateliers dédiés à la préparation de l'arrivée de bébé. Avec près de 2500 naissances par an, elle se classe au troisième rang des maternités toulousaines. Myrose, course marche contre le cancer du sein organisée par l'association Elle. La Myrose est une distance de 6 km à parcourir dans les rues de Bagnères-de-Luchon. Chacun et chacune a son rythme en courant ou en marchant. Cette marche ouverte à tous, femmes ou hommes de plus de 16 ans, se veut intergénérationnelle et solidaire. Dimanche 12 octobre de 9h à 17h au parc du casino de Bagnères-de-Luchon.
Merci Eric Leclerc, retour de l'info dans moins d'une demi-heure avec l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Ce soir sur France 3, il y a un documentaire qui s'appelle « Saisonnière ». Après des décennies d'intenses fréquentations, Lourdes s'apprête à vivre une nouvelle mue. Elles sont réceptionnistes, vendeuses, photographes, hôtelières et posent un regard contemporain sur la cité des miracles. Elles seront au cœur de ce documentaire donc qui s'intitule « Saisonnière » que vous pourrez voir ce soir donc sur France 3 Occitanie à partir de 22h50. La suite de Présence Midi, c'est maintenant avec Anne Lasserre et Philippe Subarcaz, le regard des écrivains sur les Pyrénées.
Radio Présence, dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
C'est toujours pour moi, mais je le dis, un plaisir de vous accueillir sur Radio Présence. C'est le moment de distraction, on part dans les Pyrénées, on voyage dans le temps, on est dans ces beaux paysages que vous nous lisez avec beaucoup de talent. Merci d'être là. Et si on faisait un petit bilan, Anne, parce que vous êtes arrivée aujourd'hui avec des chiffres qui sont assez incroyables. Combien d'auteurs différents, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont revenus, donc il y a beaucoup plus de chroniques, mais combien d'auteurs vous nous avez distillé pendant depuis ce nombre d'années?
Eh bien, Philippe, j'ai compté justement il y a quelques jours 196 auteurs.
196 auteurs différents,
oui, hein. Ont été lus en quelque sorte sur les ondes de Radio Présence depuis le début de la chronique. Pour quelques 345 ou 350 chroniques.
C'est incroyable, puisque ce sont des auteurs en plus qui ont évidemment parlé des Pyrénées, parce que c'est ça aussi le dénominateur commun de chacun.
Oui, oui, oui. Tous ont parlé des Pyrénées. En gros, j'ai beaucoup parlé entre le 18e et de nos jours.
Oui.
Oui, oui, tous ont parlé des Pyrénées.
Des Pyrénées, c'est incroyable. 196 auteurs sont passés sur Radio Présence. Voilà. Mais c'est bien de faire aussi des bilans. Et puis le nombre de chroniques aussi est assez remarquable. Alors aujourd'hui, Anne, nous partons pour Barège grâce à la plume d'Arnaud Abadie, qui est né à Tarbes Oh ben, ça, il y a quelques années,
oui.
1797.
Oui, et dans cette même ville, Philippe, il a été avocat, puis il est entré dans la magistrature, et il a terminé sa carrière comme conseiller à la Cour de Pau.
Ah, quand même. Oui. On peut préciser encore qu'il a été conseiller général des Hautes-Pyrénées, mais il est resté à la postérité pour avoir écrit « Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées ».
Tout à fait vrai. Et cet ouvrage est publié pour la première fois en 1819 et il a connu de nombreuses rééditions. C'est à la fois, Philippe, un guide, un récit de voyage et c'est surtout un précieux témoignage de la vie dans les Hautes-Pyrénées au début du 19e siècle.
Ce livre a été offert à la duchesse de Berry, évoquée la semaine dernière, quand elle est venue dans les Pyrénées en 1828. Et aujourd'hui, eh bien, vous nous amenez, on l'a dit au début de la chronique, à Barèges. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Arnaud Abadie, qui est né à Tarbes à la fin du XVIIIe siècle, est un des premiers à écrire un ouvrage sur les Hautes-Pyrénées, évoquant les paysages remarquables et les stations thermales à la façon d'un guide, mettant en valeur les lieux et les caractéristiques des eaux thermales. Hautes-Pyrénées est à prendre dans un sens très large, car il évoque également la vallée d'Ossau, Pau, Luchon. Aujourd'hui, nous le suivrons à Barèges. Quoique la situation de Barèges ne soit pas heureuse, écrit Arnaud Abadie, on y trouve néanmoins, comme à Cotteret et à Saint-Sauveur, le logement, l'agrément et toutes les commodités de la vie. Il y a un garde-fontaine et l'on y baigne jour et nuit. Le gouvernement y a fait construire un hôpital militaire auquel sont attachés un médecin, un chirurgien-major et deux aides-majors. Barèges a encore un médecin-inspecteur. Un règlement pour l'ordre du service est ici, comme à Cotteret et à Saint-Sauveur, affiché à la porte des bains. À Barèges, plus encore qu'ailleurs, on doit le consulter et en exiger le maintien rigoureux. La grande affluence des baigneurs, si disproportionnée au faible produit des sources, exige un ordre parfait et une extrême justice distributive. Il est même nécessaire que les militaires hospitalisés et les baigneurs civils se fassent, par l'organe de leur médecin, des concessions réciproques pour les piscines et les baignoires. Le bourg de Barèges dépend de la commune rurale de Bettepouaille, dont le chef-lieu est à une petite distance. La police y est confiée à un agent spécial. La mendicité est interdite ici, comme dans les autres établissements thermaux du département. Les baigneurs sont priés de ne point la tolérer, de dénoncer à la police tout homme ou femme qui contreviendrait aux lois en mendiant. Des secours sont donnés pour la prévenir et des quêtes sont faites par des étrangers qui, annuellement, laissent des souvenirs d'une pieuse bienfaisance. Barèges n'est habité que pendant la saison des eaux, qui commence à la fin de mai et dure jusqu'au commencement d'octobre, aussi bien qu'à Saint-Sauveur, Cotteret et Bagnères. C'est-à-dire que la grande affluence est en juillet et août. Barèges peut loger dans 50 maisons près de 800 étrangers, non compris les militaires de l'hôpital. Les ours et les neiges s'en emparent durant l'hiver et la garde des maisons est confiée à un petit nombre de concierges. Celui qui a vu pendant cette saison ce séjour affreux et glacé ne peut concevoir que l'autorité ait besoin de déployer alors la plus grande sévérité dans l'intérêt de l'importante forêt voisine pour empêcher qu'il ne soit habité par un grand nombre de montagnards. Les neiges s'y amoncellent d'une manière effrayante. Les débordements du Bastan et les avalanches l'exposent au plus grand danger. Quelques sollicitudes qu'on y apporte, quelques travaux qu'on y exécute. Dans la direction des lavanges, qui presque annuellement ravagent tout sur leur passage, il est des maisons au centre de Barèges qu'on s'est lassé de rebâtir. Aussi, ne présente-t-elle que des masures couvertes de planches et restaurées à chaque printemps. De ce nombre est un café ou Vauxhall qui est très brillant pendant la saison thermale, mais dont il reste à peine trace à la fin d'octobre. Ainsi, ces bains précieux, insuffisants déjà pour le grand nombre des malades, ces sources où l'homme de tous les pays vient déposer ses douleurs, qui versent impartialement la santé pour le pauvre et le riche, pour le guerrier et pour le magistrat, tous les éléments semblent conjurer pour les détruire. Les causes de destruction qui menacent Barège proviennent de l'état de nudité où se trouvent les montagnes qui l'environnent. Et s'il existe encore, l'humanité doit ce bonheur à cette forêt tutélaire, la seule que la hache imprévoyante des montagnards ait épargnée. Il n'est pas besoin de répéter ici l'exposé des vertus, on pourrait dire miraculeuses, des eaux de Barège. L'Europe en retentit. Barège est le domaine des blessés. Il n'est pas moins précieux cependant pour les goutteux, pour les affections rhumatismales, scrofuleuses, maladies de la peau, ankylose, etc. Mais Barège est exposé aux irruptions du Bastan et aux lavanges que vomissent annuellement les ravins creusés dans les pentes escarpées qui l'entourent. Voici comment se forment ces épouvantables phénomènes. Les premières neiges qui couvrent les monts, adhèrent à leur surface et deviennent solides par la succession des dégels et des gelées. D'autres neiges se développent sur les anciennes sans s'y attacher. Alors, le poids est énorme. Le moindre souffle, la plus légère commotion, suffit pour mettre en mouvement ces masses qui, une fois détachées, s'accroissent de tous les rochers qu'elles trouvent sur leur chemin, comblent les lits des torrents et gagnent les pentes opposées par l'incalculable rapidité de leur chute. Les forêts, les maisons tombent avant d'être frappées. Tout est balayé, même avant le choc. Tout semble fuir devant la lavange. Terrible effet de l'air fortement comprimé. Les auteurs sont unanimes. Les eaux de Barège ont de nombreuses vertus, mais Barège est souvent considéré comme sinistre et donné comme inhabitable l'hiver. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Arnaud Abadi, Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées, ouvrage publié pour la première fois en 1819. La réédition sur laquelle nous nous sommes appuyés date de l'an 2000 et nous la devons aux éditions du Bastion.
Alors Anne, Barège est bien connue pour son hôpital militaire fondé vers 1760.
On y soigne en effet les blessés de la guerre de 7 ans qui a lieu entre 1756 et 63. On trouve des échos de cette guerre d'ailleurs dans Candide, un conte philosophique écrit par Voltaire.
L'hôpital militaire de Barège reçoit aussi les mutilés de la Révolution française, les blessés des campagnes napoléoniennes.
Oui, et j'ai vu que chaque année, l'hôpital, finalement, accueillait quelques 600 officiers et soldats.
La station de Cotteret est riche en eau thermale. Les sources alimentent 9 établissements thermaux. À Cotteret, on soigne aussi les chevaux.
Oui, Philippe, tout à fait. Particulièrement une maladie des voies respiratoires que l'on appelle la pousse. Alors, ils boivent matin et soir 2 seaux remplis des eaux de la Raillère, qui est la source la plus fréquentée.
On peut rappeler qu'au XIXe siècle, les eaux thermales pyrénéennes sont à la mode. Et on en a parlé dans cette chronique que vous nous faisiez. Et les curistes viennent de toute l'Europe.
Les curistes sont si nombreux qu'à Barège, par exemple, les bains sont ouverts de 3h du matin à 22h.
Ouais, ben. Oui. Maintenant, c'est plus tout à fait le même cas. En tout cas, il n'est pas question de dormir tard. À Barège, on est réveillé par le son de la Diane, une batterie de tambour qui se fait à la pointe du jour.
Et oui, puisqu'il y a les militaires.
Exactement. Alors, la semaine prochaine, Anne, nous resterons dans le Lavedan avec Anne-Marie Laringue.
Oui, Anne-Marie Laringue.
Voilà, on prononce bien le mot. Anne-Marie Laringue, donc, sera l'auteur que vous avez sélectionné pour nous. À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.
Merci, Anne Lasser et Philippe Subercaz et Philippe qui restent avec nous, puisque dans un instant, on le retrouve en compagnie d'Annick Baléry. On va parler des travaux à faire durant cette période automnale. Et je vous rappelle que dans un quart d'heure, l'actualité nationale et internationale, c'est avec la rédaction française de Radio Vatican. Je vous souhaite un très bon appétit à vous qui nous écoutez.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Les travaux d'automne, c'est le sujet qui nous intéresse avec vous, Annick Baléry, bonjour.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. La semaine dernière, on a parlé un peu de ces travaux d'automne, vous avez parlé de la facilité et de tous les avantages, et que vous n'étiez pas une grande adepte de l'ortie.
Voilà, vrai qu'on a débordé un peu sur les tomates, c'est pas vraiment la saison, Philippe, mais voilà, on anticipe quand même. Alors on peut aussi mettre en place en automne des céréales. C'était quelque chose qui était fait autrefois. La céréale, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose de très fragile. Il y avait des semis d'automne et en plus, elle a une action désherbante. Au pied de, si vous mettez du seigle, par exemple, sur une parcelle ou du blé, vous allez avoir moins d'herbe que si vous mettiez autre chose.
D'accord.
Voilà, c'est pas très connu, mais c'est une réalité. Alors, dans les coins où peut-être plus. Où le climat était plus doux que chez nous, on mettait en place des céréales et après on y mettait les moutons. Les moutons tondaient l'herbe qui commençait à pousser. La céréale, au lieu de faire une tige, elle en faisait deux ou trois.
Oui.
Le mouton fumait le sol. Et quand le blé montait, par exemple quand c'était du blé, du fait qu'il y avait trois tiges, elles étaient moins hautes. Et s'il y avait du vent ou s'il y avait des pluies fortes, le blé ne se couchait pas.
Hein, d'accord.
C'est plutôt pas mal.
Oui, voilà. Et ça c'est pour quand même des terrains très importants. Hein.
Voilà. Ça me fait penser qu'à la Grainothèque, on a récupéré... ça fait un an, le blé qui était planté dans la plaine de Tarbes dans les années 1910, qui s'appelait la Bladette de Puy-Laurence, 84 si je me rappelle bien. Et c'est un blé qui est formidable parce que c'est un blé pour terre pauvre. Et en fait, si vous lui donnez trop à manger, eh bien, il se couche. Hein? Voilà. Et c'est un blé qui est d'excellente qualité. Les gens qui font de la farine avec... la trouve vraiment intéressante. Le blé est tendre, donc il est facile à moudre. Et la farine est légèrement crème. Et bon, moi, j'ai eu l'occasion d'en consommer. C'est vraiment sympathique. Voilà. Petite parenthèse.
Voilà.
Donc, vous pouvez aller toujours pareil dans les rayons de votre jardinerie. Vous allez peut-être trouver justement des céréales. Vous pouvez aussi tenter le sarrasin, alors qu'il n'est pas une céréale, c'est une polygonacée, c'est, si je me rappelle bien, de la farine de l'épinard, de la famille de l'épinard. C'est très efficace. Moi, j'ai essayé ça chez une copine, parce que je jardine chez les autres. Et ça marche très bien. Ça nettoie le sol et ça... Voilà, si vous avez un endroit où les mauvaises herbes viennent régulièrement, vous griffez en début d'automne, vous mettez un peu de sarrasin, vous allez voir, c'est plutôt intéressant.
Alors, Annick, pour ceux qui ont un jardin, qu'est-ce qu'on fait en automne? Là, on a toujours l'impression que l'automne, eh bien, c'est, on arrive vers l'hiver, tout va mourir, tout va se reposer. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre jardin passe un bon hiver?
Oui, ben déjà couvrir les parcelles. Vous avez des semis tardifs que vous pouvez faire. Si je me rappelle bien, la mâche peut encore se semer un peu. Hein? Voilà, et puis après, en fait, l'automne, c'est aussi le temps des récoltes, quoi. Donc, il faut récolter les courges, les fruits. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Hein. Voilà, c'est le moment où on remplit les brouettes. C'est plutôt sympathique. D'ailleurs, ça fait des belles photos.
Oui, ça fait des belles photos. Voilà. Ouais.
Et puis, on peut se lancer dans les confitures aussi. Alors là, on a eu les coins. Et quelque chose qu'on connaît peu, en fait, c'est que les coings, on peut faire une marmelade, bien sûr, de la gelée. Et il y a une recette qui est patente, c'est la recette de Nostradamus, Parce que Nostradamus, en fait, en plus d'avoir fait de l'astrologie, il a écrit un manuel pour faire des confitures. Ah. Et il propose une confiture qui est faite avec des épices, et je vous la recommande. Alors, je vais vous la faire en gros, mais après, vous pourrez la retrouver sur Internet, et vous marquez confiture de Nostradamus. Alors, ça, en fait, ça avait des visées médicinales, parce que le sucre et les fruits étaient souvent donnés pour guérir. Et le sucre, c'était un produit de luxe à l'époque de Nostradamus. On faisait quelquefois des confitures avec du miel, mais là, c'était... Voilà. Et donc, il préconise de séparer les pépins et la peau, une fois qu'elle a été essuyée. On la fait cuire dans une casserole, on fait un genre de bouillon qu'on va laisser reposer toute la nuit et qui va faire un genre de pectine. Et de l'autre côté, on a le coin qui est coupé en tout petits morceaux.
Du coup, il faut être un peu costaud, hein, voilà. Parce que ça se coupe difficilement.
Ah, je vous recommande le couteau en céramique pour ça, parce que moi, c'est un truc que j'ai découvert. Je trouve que ça marche très bien. Avec les choses à chair dure, comme ça, les potirons, on arrive à avoir quelque chose d'assez précis. Moi, j'aime bien. Bon, j'ai des petites mains, en plus, donc je suis obligée de ne pas faire ça en force. Voilà. Et le couteau en céramique permet de ruser. Voilà. Et donc, d'un côté, vous avez votre bouillon avec les pépins et les peaux. Et de l'autre côté, vous avez les petits cubes de... Les petits cubes de coin que vous mettez à macérer avec le sucre et les épices. Alors, dans les épices, il y a de la cannelle, il y a du clou de girofle, il y a de la cardamome aussi. Voilà, vous laissez reposer ça toute la nuit. Et après, vous joignez les deux et vous faites cuire les deux. Alors, les confitures, c'était ça avant. Il fallait plusieurs jours. Alors là aussi, les inquiets du rangement, ils vont avoir des soucis. Parce que ça veut dire que pendant 3 jours, on a la casserole un peu collante sur la gazinière et ça ne plaît pas toujours. Voilà. Et donc, vous laissez réduire un jour, un deuxième jour. Et vous faites bouillir quelques minutes et puis vous arrêtez. Donc, petit à petit, en fait, c'est le système pour les fruits confits. Le fruit chasse son eau et se charge en sucre. Et le dernier jour, vous mettez vos quartiers de coin dans des pots, après les avoir égouttés. Vous faites réduire le jus et vous versez le jus réduit sur vos coins. Et vous allez vous régaler. Voilà. Alors, pour plus de précision, je vous renvoie quand même pour les poids et les mesures et tout ça à Internet, mais ça se trouve facilement.
Hein. Les recettes, donc les confitures de Nostradamus. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on se promène un peu dans la campagne, c'est malheureux à dire, mais beaucoup de gens ont planté des arbres fruitiers chez eux et ne s'en occupent absolument pas. L'arbre est rempli de fruits et personne ne les ramasse. Ils tombent et c'est quand même... Je pense qu'il doit y avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de fruits qui sont gaspillés parce que des gens ils ont planté des arbres fruitiers. Alors peut-être parce qu'ils sont âgés, peut-être parce que ça ne les intéresse
pas.
Hein,
voilà, mon frère est infirmier dans une clinique où il y a des paras et des tétraplégiques, et chaque année, au moment de la cueillette des cerises, il y a des problèmes, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un souci. Par contre, il y a des associations qui petit à petit s'intéressent à ça et font de la récupération de fruits. Ça peut être intéressant. Quelquefois aussi, c'est parce que les fruits sont véreux. Alors, il faut, et que bon, il n'y a pas grand chose à en tirer. Ça peut se contre-attaquer avec deux systèmes. Enfin, il ne faut pas que l'arbre soit gigantesque non plus. Ce qu'on appelle les pièges à carpocaps, parce qu'en fait, les vers qu'on trouve dans les fruits, ce sont des chenilles. Et les pièges à carpocaps, ce sont des pièges adhésifs qu'on va suspendre dans l'arbre au moment de la floraison pour éviter que les papillons pondent à l'intérieur du fruit qui commence à se former.
Oui.
Bon, là, déjà, c'est des pièges jaunes adhésifs, ça se trouve assez facilement. On a aussi pu prouver que la facélie dont je vous ai parlé la dernière fois semée en bande en bordure de verger va abriter des petites guêpes prédatrices. Enfin, c'est pas vraiment des guêpes, c'est des mouches qui imitent des guêpes. Enfin, c'est des syrphes qui vont aller pondre sur la chenille aussi. Enfin, qui vont parasiter le papillon, et ce qui fait que ça va limiter le nombre de papillons et de vers. Ce qu'on peut faire aussi à l'automne, c'est au pied de l'arbre, on peut enrouler un carton ondulé. On fait plusieurs tours.
Vous nous l'aviez voilà. dit, oui. oui.
Et donc, les chenilles, tous les parasites vont descendre, en fait, se réfugier dans le sol en hiver ou dans les fissures de l'arbre. Et ils vont chercher, en fait, ce qui est le plus facile pour se loger. Donc là, vous leur proposez un HLM bien douillé. Donc, ils vont aller pondre, en fait, faire leur petite chrysalide ou leur petit cocon
dans le carton.
Vous enlevez le carton et vous en débarrassez. Et donc là, vous limitez aussi le nombre de parasites sur votre arbre.
Ouais.
Et puis, ce qui se passe aussi depuis plusieurs années, ça commence à bien marcher, c'est des ramassages collectifs de pommes et le pressage pour faire du jus. Alors ça, moi, je connais plusieurs villages où ça se fait.
Ben oui.
Hier, j'étais dans un village, je pense que c'est Espèche, et où ils font une fête de la pomme et où collectivement, ils pressent le jus et ils consomment ouais. le jus voilà, au moment... voilà. C'est un super petit village où il y a vraiment beaucoup de pommiers et de poiriers anciens et surchargés de fruits. Alors c'est vrai, la consommation d'une famille, voilà, c'est limité. Il y a une époque où on avait des caves où on pouvait avoir des étagères avec de la paille et où on mettait les pommes. Mais voilà, c'est... Objectivement, quand on est une famille, on va pas.
C'est peut-être ça aussi le problème des jardins. C'est qu'à un moment, quand ça arrive tout d'un coup et on est. Il y en a trop pour une consommation. Alors, ça veut dire qu'il faut prévoir de nombreuses heures. Par exemple, si on a trop de tomates pour faire des coulis ou pour les mettre en bocaux, donc ça veut dire qu'il faut sortir le stérilisateur. Enfin, ça demande beaucoup de travail. Et on est devenu un peu une société un peu feignante là-dessus. Et lorsqu'on peut aller acheter au supermarché son coulis, tout fait, c'est peut-être dommage ça aussi, parce que les anciens avant, ben, comme ils n'avaient pas les moyens, puis il n'y avait pas tous ces...
Il n'y avait pas les congélateurs et tout ça.
Voilà, il fallait... Donc il fallait absolument quand les fruits arrivaient ou les légumes, eh ben, il fallait les trouver des moyens pour les conserver et passer l'hiver avec.
Voilà, c'était l'autonomie. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petite. Vous savez que ces mises en conserve, c'est des choses qui ont été... proposé dans les campagnes aux femmes, on leur a appris, en fait, dans les années de guerre, à mettre en conserve pour pouvoir être en autonomie.
Oui.
C'est pas quelque chose de si vieux que ça. Le verre industriel, c'est pas très vieux. Et voilà, il y a eu toute une campagne, mais vraiment organisée par l'État pour que les femmes apprennent à mettre en conserve. C'est assez étonnant. Et puis ça marche aussi avec le caoutchouc, puisqu'il y avait les fameux joints, voilà. Donc c'est amusant parce qu'il y a le côté historique aussi qui va avec une certaine industrialisation. Et alors ce que je connais, moi par contre, moi j'ai des amis qui appellent les copines quand c'est le moment des récoltes et on partage. Ça peut être ça aussi, ça peut être sympa.
Il faut trouver des idées, oui.
Voilà.
Parce que même si ça demande du travail. Ça n'a pas le même goût que ce qu'on achète.
Ah non, ça n'a rien à voir.
C'est vraiment voilà, une salade, une tomate, des légumes du jardin. C'est les haricots verts récoltés. Mais on dirait que c'est quand même autre chose.
Moi, j'adore. Ah, j'adore.
Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à voir si les gens qui nous écoutent peuvent avoir un petit bout de jardin. Mais des fois aussi, il y a des gens qui ont des terrains, ils vieillissent, ils ne peuvent plus s'en occuper, mais proposer un petit carré à d'autres personnes.
Oui, mais ça se fait.
Voilà, ça c'est pratique mais aussi.
Ce serait bien que ce soit pris en charge par des associations. Ça se fait peut-être déjà... mettre en contact des gens en ayant quand même des garanties voilà, d'honnêteté ou de gentillesse. Voilà. Et puis, ça...
Voilà, on laisse un petit bout de jardin. Mmh. La personne eh bien, elle, qui n'a pas de jardin, bien, elle va pouvoir cultiver. Donner aussi peut-être une partie de sa récolte au propriétaire du terrain et tout le monde est gagnant.
Oui, c'est tout à fait, bien sûr. Hein,
tout le monde est gagnant. Oui. Voilà des idées aussi avec
voilà.
le...
Et puis aussi, il faut peut-être arrêter de s'obstiner à vouloir remplir les rangs. On a 10 mètres, on remplit 10 mètres, et puis après, on se retrouve, voilà, faire des rangs partiels ou repartager son jardin avec des allées pour avoir des choses raisonnables, parce que c'est vrai que bon, déjà il faut écouler, mais il faut ramasser aussi. Ouais. Bon, le haricot vert, si on en a vraiment beaucoup, voilà, c'est fatigant aussi.
Oui, ça peut être entre les voilà. Couper les queues, les mettre dans les bocaux.
Mais le bruit du petit pois tombant dans le saladier, ça c'est quelque chose. Hein. Ça c'est des souvenirs oui, c'est... avec les grands-mères et tout, c'est très bien.
Nostalgie, voilà. Nostalgie. Donc les travaux d'automne, peut-être on peut même continuer la semaine prochaine, quelques travaux d'automne encore, Annick.
Non,
et bien voilà. Écoutez, la semaine prochaine, ce que je vous écoute, nous allons parler des parfums des roses alors.
Voilà, exactement.
Voilà, à la semaine prochaine, Annick.
Oui, à la semaine prochaine.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin.
Présence à Montauban, 93.3.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Publication de la première exhortation apostolique de Léon XIV, dilexité, jeter, mais ce document.